Nous voulons maintenant ouvrir nos Bibles pour les étudier. Ça fait plusieurs mois que nous étudions le livre des Actes. Je vous invite à prendre avec moi un passage qui se trouve dans le chapitre 20 et 21. On va commencer à la fin du chapitre 20 et aller jusqu'au verset 17. Donc, Actes chapitre 20, verset 36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, Paul, et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous nous embarquâmes, après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyre, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et y retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyre à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et nous passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Voilà, nous étudions ce livre des Actes qui nous aide à comprendre les origines du christianisme et sa croissance incroyable, phénoménale dans les premiers siècles. Et puisque c'est l'histoire de l'expansion, de la mission, de l'action, comme le mot acte nous fait penser, eh bien, les voyages occupe une place importante dans ce livre d'action et d'expansion. Donc, on y trouve pas mal de voyages. Mais ici, c'est comme si Luc nous montre le contenu détaillé de son carnet de bord. Et pour un culte ce matin, les baptêmes et tout ça, on se dit, mais quel intérêt d'étudier un carnet de bord? Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un carnet de bord ce matin? Mais je crois que ce passage convient pas mal à notre culte ce matin. Karine s'embarque bientôt dans un voyage, ça c'est évident. Et puis même les baptisés, ils s'embarquent dans un voyage. Et nous tous, la Bible a dit que la vie chrétienne est comme un voyage. L'apôtre Pierre dit que nous sommes des voyageurs ici, sur terre. Et ce passage nous montre ce qu'il nous faut, un aspect, en tout cas, ce qu'il nous faut dans la vie chrétienne. Il nous faut des havres. Autant un bateau a besoin d'un havre physique, autant nous, dans le voyage chrétien, nous avons besoin de havres spirituels. Et c'est ça un peu ce que nous voyons dans ce passage. Alors nous allons voir quels sont ces havres, ensuite comment ils fonctionnent, et enfin comment y entrer. Quels sont ces havres ici? Eh bien, nous remarquons que chaque fois que l'apôtre Paul il pose pied à terre, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver les frères, il va trouver l'Église, il va trouver les autres disciples pour s'entourer, s'encourager. C'est-à-dire, ces havres, pour Paul, il s'agit des amitiés spirituelles, il s'agit de la communion fraternelle. C'est un thème important du livre des Actes. La communion fraternelle, c'est ça que nous avons ici. On sait que Paul se dirige vers son arrestation et des tribulations. Hein. Il le disait dans le chapitre précédent. Je sais que les liens et les tribulations m'attendent. Mais tout ce chapitre ici, que nous venons de lire, c'est un havre de paix, un havre de joie. Et il va passer des moments avec des frères à tous ces endroits, à Milet, à Tyr, à Césarée, à Ptolémaïs, à Jérusalem. Et chaque fois, il y a toutes ces activités de la communion fraternelle. Ils s'embrassent, ils prient, ils mangent ensemble, ils exercent l'hospitalité. Ils vont certainement échanger des histoires, échanger leur foi. Le fait, par exemple, qu'il a passé quelques jours chez Philippe. Un des sept, on avait étudié Philippe au début du livre des Actes avec Étienne et tout ça, mais là on voit que Luc, qui a passé une semaine chez Philippe, c'est là où il aurait pu entendre toutes ces histoires d'un témoin qui était sur place pour les rapporter comment l'Église a pu naître à Jérusalem et ses premiers pas. Donc dans tous ces endroits, il y a ces amitiés spirituelles qui offrent à Paul un havre. Donc le bateau va débarquer pour se ressourcer, mais autant Paul va débarquer dans ces différentes villes, rechercher la communion fraternelle, des amitiés spirituelles, et ça sera pour lui un havre dans son voyage. Alors la question que je vous pose ce matin, est-ce que vous avez des amitiés spirituelles? Est-ce que vous avez ces havres dans la vie? C'est une autre manière, je crois, de décrire une vie d'église en bonne santé, c'est que voilà, il y a ces amitiés spirituelles, on vient ensemble pour s'encourager, s'aimer, nous avons besoin des uns des autres. Vous n'arriverez pas au bon port sans l'aide des autres. La Bible avait commencé déjà avec cette pensée, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous croyons qu'il n'est pas bon que le chrétien soit seul, il n'est pas bon que le missionnaire soit seul, il n'est pas bon que l'apôtre Paul soit seul. Voilà, nous avons tous besoin de cette communion, ces amitiés spirituelles. Et c'est au cœur de ce que c'est qu'une église, on se réunit autour de Jésus-Christ, mais aussi pour s'aimer et pour s'encourager, s'entourer. Alors comment ça fonctionne ces havres? Nous remarquons tout d'abord, c'est quelque chose à rechercher. En verset 4, il dit que nous trouvâmes les disciples. Donc ils débarquent, mais pendant que le bâtiment devait décharger sa cargaison, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Ce mot trouver, eh bien, le mot grec apparaît une seule autre fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot quand on lit en Luc 2, dans l'histoire de Noël, où les bergers sont allés en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans une crèche. C'est-à-dire l'idée de trouver, là, c'est trouver après recherche. C'est chercher et trouver. Et on voit que, de la part de Paul, il y a une volonté intentionnelle d'aller chercher cette communion, ces amitiés spirituelles. Vous savez, le manœuvre le plus délicat pour un bateau, c'est justement d'entrer dans le port. C'est là où il risque de... c'est là où il faut réussir à s'amarrer sans s'attacher, sans faire de dégâts. Et en plein mer, il n'y a aucun risque de heurter un autre bateau. Mais c'est quand on arrive dans le port où il y a d'autres bateaux, c'est là où le risque est plus grand. Et effectivement, il n'y a aucun risque de se heurter avec quelqu'un d'autre si on fait notre propre chemin tout seul. Mais les risques viennent quand on se met ensemble et qu'on cherche cette communion, cette amitié. Et c'est sûr, parfois c'est un peu compliqué. Certains endroits ici où Paul, il aurait pu dire, moi j'ai vraiment pas le temps d'aller chercher ses frères, le bateau risque de repartir. On voit, c'était toute une organisation pour faire venir les amis, les frères de Éphèse pour qu'ils puissent les voir à Milet parce que le temps manquait, mais tout le monde sacrifie de son temps pour s'encourager. Paul aurait pu dire, moi je ne connais pas ces gens, parce qu'à plusieurs endroits, ils débarquent dans les villes où Paul lui-même n'avait pas travaillé. L'évangile a fait son œuvre, mais sans l'apôtre Paul, et donc il arrive à certains endroits, et certainement il y a des chrétiens qu'il ne connaît, pas, il n'a jamais vu. Alors il aurait pu dire, là, je ne les connais pas, donc je reste dans le bateau, dans mon petit coin avec un bon livre, ça, c'est plus simple. Mais non, il va vers les autres. Et ce qui est fort ici, quand on voit à plusieurs reprises, c'est qu'ils n'ont qu'à passer une petite semaine ensemble, et c'est déjà les grands moments d'adieu, les grandes amitiés. Et là, on voit que c'est plus que des amis Facebook, il y a quelque chose de profond et d'authentique quand on partage sa foi avec d'autres chrétiens. Et ça, c'est sûr, tous qui ont fait un voyage missionnaire ont vécu cela, le fait de servir ensemble, de partager sa foi ensemble avec des chrétiens qu'on ne connaît pas, mais cela nous lie à vie, il y a quelque chose de merveilleux. Quand on voit le monde, les amitiés existent dans le monde. Il ne faut pas forcément être chrétien pour être ou avoir de bons amis. Mais la plupart des amitiés du monde sont principalement par affinité ou par ressemblance, ou comme les amis du fils prodigue, c'est tant qu'il y a la fête, tant qu'il y a l'argent, là il y a des amis, mais après. Mais ici on voit que c'est havre où les amitiés spirituelles, la communion spirituelle va se vivre, eh bien c'est pour tous, il y a femmes, il y a enfants qui vont entourer Paul, il y a des célibataires comme les quatre filles vierges de Philippe. Il y a une diversité dans l'Église, c'est justement ça, c'est très varié, et puis, mais on vit ensemble, c'est ces amitiés qui sont tellement précieuses pour notre voyage dans la vie. Même ce qu'il faut aussi, que c'est les plus spirituels, les plus matures, ils vont pouvoir être entourés et stimulés et encouragés par les jeunes dans la foi. On pourrait se dire, l'apôtre Paul, lui, il a tout réussi dans la vie chrétienne, il n'a pas besoin de rechercher cette communion fraternelle, il sait tout, il comprend tout, il maîtrise tout. Mais non, c'est des enfants et des femmes qui vont pouvoir l'entourer, prier pour lui, l'accompagner jusqu'au rivage. Il a besoin de ça aussi. Je dirais que même cela en dit long sur la qualité de ces relations fraternelles, ces amitiés fraternelles entre Paul et ses amis. Ils vont se mettre en désaccord avec lui. Ils vont lui conseiller de faire autrement. Moi, j'oserais pas dire à l'apôtre Paul que non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais l'amitié fraternelle était telle que, et le partage était tel qu'ils pouvaient échanger comme ça. Ils vont être en désaccord avec lui sans que cela affecte leur amour et leur relation. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez des amis dans la vie qui peuvent vous donner un avis différent et qui peuvent vous suggérer que vous vous trompez sans que votre relation soit affectée? Et c'est ça qu'il faut, en tout cas, c'est havre où on peut échanger très fraternellement. Et puis c'est ce qui est beau de voir toutes sortes de... Voilà, toute variété, cette diversité dans l'Église, et bien chacun va pouvoir les encourager. C'est pour ça que nous croyons que les Haïtiens vont pouvoir encourager, enseigner Karine. Nous croyons que Karine va pouvoir enseigner, encourager les Haïtiens. Telle est la communion fraternelle dans la Bible. Mais on voit aussi, dans la manière que ça fonctionne, cette communion fraternelle, c'est quelque chose à rechercher, c'est quelque chose qui est très diversifié. On voit aussi que ce n'est pas quelque chose d'infaillible. Dans la communion fraternelle, les amis, c'est très bien. Rappelons-nous que Dieu seul est parfait. Sa volonté à lui, ses conseils à lui sont infaillibles. Et ce passage contient quelque chose qui a toujours embêté les étudiants et les commentateurs de la Bible, y compris moi-même. Il est évident que Paul va à Jérusalem sous la conduite de l'Esprit. On a plusieurs versets, mais en chapitre 20, verset 22, il est dit que Paul dit, je suis lié par l'Esprit, je dois aller à Jérusalem. En acte 19, verset 21, il est dit que Paul prit la décision dans l'Esprit de se rendre à Jérusalem. Et puis une fois qu'il arrive et que ça se passe un peu mal, il est arrêté, le Seigneur vient l'encourager en chapitre 23, verset 11 et dit, « Prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » Donc le Seigneur est avec lui, le Seigneur le dirige chaque pas pour aller à Jérusalem, il a rendez-vous là, pour ensuite avoir rendez-vous à Rome, pour pouvoir témoigner à tout ce monde, toutes ces autorités. Mais nous trouvons ici, à plusieurs reprises, que les disciples essaient de le décourager de cette démarche. Et il est même dit en verset 4, « Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Et plus tard, il y a Agabus qui vient, qui lui fait cette prophétie. Celui qui appartient à cette ceinture, il sera lié. Et la réaction des frères, c'est de dire, « Mais non, vraiment, ils ont essayé de le dissuader. » Nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem, verset 12. Alors comment comprendre tout ça? Et Paul est poussé par l'esprit, et puis ici on a les disciples, on a les prophéties qui disent, on dirait qu'on essaie de le décourager. Alors certains disent que c'est la preuve que dans le Nouveau Testament, les prophéties peuvent se tromper, et donc ils se donnent une carte blanche pour dire tout ce qu'ils veulent, et dire, de toute façon, si ça c'est pas vrai... C'est pas grave. Mais je pense une meilleure façon de comprendre tout ça, c'est de dire qu'il faut faire une distinction entre ce que Dieu a révélé à ces personnes, à Paul, et puis les conclusions que les frères ont pu tirer. Dieu, c'est sûr, il voulait avertir Paul, informer Paul de ce qu'il attendait. Et Paul savait que la souffrance, les afflictions l'attendaient dans le voyage. Agabus, sa prophétie, il n'y a pas une conclusion qu'il lui donne, il lui dit simplement ce qui va lui arriver. Et c'est les amis de Paul, quelque part on peut les comprendre. On peut les comprendre parce que c'est la réaction naturelle et normale de tout ami, de tout parent. Ne fais pas ça. Mais vous voyez la différence entre quelque chose que... Une prophétie, une révélation du Seigneur et peut-être une mauvaise conclusion à en tirer. Il y a une prophétie très claire dans la Bible qui dit que Jésus revient bientôt. Une mauvaise conclusion à tirer serait peut-être de ne rien prévoir pour la retraite ou démissionner de son travail aujourd'hui. Ce n'est pas forcément ça que Dieu demande à tous. Et Paul, ce qui est beau dans ces havres, c'est que les amis ne sont pas infaillibles. Quand nous venons dans l'église, leurs conseils, leur présence ne sont pas infaillibles. Il n'y a que Dieu qui est comme ça. Mais nous avons besoin des uns des autres. Et ce qui est fort, c'est que dans un chapitre précédent, chapitre 19, heureusement, Paul a écouté le conseil de ses amis. À un moment, lui, il allait se mettre en grand danger parce qu'il y avait une émeute. Et ses amis, heureusement, ont dit non. Ils l'ont prié de ne pas passer par là. Et quelque part, ils ont sauvé sa vie. Donc, en général, Paul écoutait ses amis. Et puis ici, exceptionnellement, il sait, par la conviction qu'il a, par la révélation de la parole de Dieu, qu'il est en train de faire la volonté de Dieu et d'aller vers Jérusalem. Donc, ça, c'est aussi une protection pour nous. Les havres, c'est merveilleux. L'église est merveilleuse. Ces amitiés spirituelles sont merveilleuses. Rappelons-nous que les frères, même les frères bien intentionnés, ne sont pas suprêmes. C'est pas la voix de Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous donne sa voix, sa volonté à travers sa parole et l'importance de rester vraiment à l'écoute de Dieu pour savoir discerner ce que peuvent dire d'autres. Mais est-il arrivé de donner un mauvais conseil? C'est possible. En tant que parents, nous est-il arrivé de donner un mauvais conseil à nos enfants qui veulent avancer? Peut-être qu'il y a une réaction normale et naturelle de vouloir le confort, le bien-être, la réussite de nos enfants. Parfois, Dieu a quelque chose de plus grand en vue et les envoie et les appelle à plus. Parfois, aux épreuves et aux difficultés. Mais pour faire face à ces épreuves, Paul ne se prive pas de l'amitié, la communion fraternelle. Et puis, on apprend que dans ces amitiés spirituelles, ces havres, Bien, c'est vrai, c'est quelque chose de provisoire ici-bas. On voit que chaque fois, Paul, c'est 4 jours, c'est 1 jour, c'est 7 jours. Il avait fait même 3 ans à Éphèse, ce qui est déjà pas mal, mais chaque fois, Dieu l'amène à aller plus loin. Et ici, nous assistons à des séparations émotionnelles. Ici, c'est sur le rivage, parce qu'ils vont devoir dire au revoir à Paul. Paul va devoir quitter ce havre des amis. Nous, c'est peut-être pas forcément sur un rivage, mais c'est dans un aéroport, ou c'est dans une gare, ou carrément au cimetière, où on va devoir se séparer de nos amis. Certainement, Paul aurait eu envie que cela dure. On est bien dans ces havres, on est bien entouré des amis. Mais s'il était resté, s'il était dit, bon, ici on est tellement bien, je reste ici, je ne reprends pas le bateau, je prends ma retraite ici, eh bien, s'il avait fait ça, il se serait trouvé en dehors de la volonté de Dieu. Telle est la nature d'un voyage, on ne peut pas rester figé, et c'est aussi dans la vie chrétienne, on s'engage, et on avance, on a ces amitiés, cette communion fraternelle, il risque d'être provisoire pour l'instant. Notre cœur désire tant arriver au bon port où on peut se reposer, on peut être juste entre amis, mais nous nous rendons compte que même le meilleur église, même le meilleur groupe de jeunes, même la meilleure chorale, voilà, les circonstances de ma vie nous appellent à grandir, à changer, comme nous voyons aujourd'hui dans la vie de Karine ou d'autres choses. Ici-bas, ce n'est pas notre destination finale, et je crois que Paul l'avait compris dans ces havres aussi merveilleux. Il savait que Dieu l'appelait à avancer. Donc, ça, c'est beau de voir la manière que Paul s'est entouré de ses amis qu'il avait pour réussir le voyage. Il est sur le point d'arriver dans de grandes épreuves, mais Dieu lui a donné ses havres, comme Dieu vous offre à chacun de vous un havre par le biais d'une église, une vie d'église où il y a vraiment une communion et une amitié fraternelle. Et enfin, comment entrer dans ce havre? Vous savez, un havre est un lieu protégé des vagues et des tempêtes, c'est ça le but. Et dans l'église, entre chrétiens, on vient ensemble et on souhaite, on veut voir que les jalousies, les méchancetés, tous ces problèmes dans le monde puissent s'apaiser et qu'on trouve un havre de paix, d'unité, de joie. Mais ces méchancetés et ces jalousies, tous ces problèmes qu'on trouve si souvent dans le monde, eh bien on les trouve aussi dans notre cœur. Alors comment cela va se faire si on veut vivre ensemble un havre de paix? Eh bien, c'est encore le message de la Bible. Vous connaissez la ville française qui s'appelle Le Havre. Il y a des havres dans la vie chrétienne, mais il y a aussi Le Havre que Dieu vous offre. Et Le Havre, c'est Jésus-Christ. Et ce qui ressort, je pense, dans ce passage aussi, parce que Luc, il sait bien ce qu'il fait. Et c'est un écrivain, c'est Luc qui a aussi écrit l'évangile de Luc, c'est Luc qui va écrire le livre des Actes. Donc il connaît bien l'histoire de Jésus-Christ. Et vous connaissez aussi, vous, l'histoire de Jésus-Christ. Parce que ce voyage de Paul, où il se destine à Jérusalem, à être lié et livré aux païens, ça ne vous fait pas penser à un autre voyage? C'est évident ici que Paul suit les traces d'un autre qui a fait le voyage avant lui, le voyage à Jérusalem. Et il le sait, il dit, moi je suis prêt à y aller pour le nom du Seigneur Jésus. Ses amis à Paul voulaient qu'il reste au calme, qu'il évite les souffrances, mais sachant qu'il agissait pour le nom de Jésus-Christ, qu'il suivait les traces de Jésus, lui il est allé à Jérusalem. Et même dans l'avertissement d'Agabus, c'est exactement la même phrase que Jésus avait dit, un peu comme prophétie à ses disciples. Il dit, moi, je vais être livré entre les mains des païens et moi, je vais être mis à mort. Jésus a été conseillé par son ami Pierre de ne pas y aller. Et Jésus a dit, non, arrière de toi, arrière de moi, Satan, c'est ma mission, c'est ma destination. Vous voyez, ça, c'est l'histoire de la Bible. Jésus, lui, il a quitté le havre de son ciel pour se jeter dans la tempête. C'est comme ça que l'Ancien Testament même parle du salut. À un moment, le psaume 107 dit que l'Éternel a des gens qui étaient éloignés de lui. Eh bien, l'Éternel les conduisit au port désiré. C'est toute une image du salut que Dieu nous offre. Il veut nous conduire au port désiré. Un jour, les disciples se trouvaient dans un bateau, dans une tempête. Aucun havre en vue, aucun port en vue. Et Jésus, il arrive au milieu d'eux. Et lui, il calme la tempête. Silence, tais-toi. Mais lui, vous savez, il s'est trouvé face à une autre tempête, lui. Il a pris en plein fouet. Lui, il a été immergé, il a été baptisé dans nos péchés, comme nous avons vu ce matin. Les vagues de la colère de Dieu qui devaient nous submerger se sont abattues sur lui à la croix. Et ça, c'est l'histoire de la Bible. Jésus, il est le havre. Et quand on découvre ce havre, et quand on y entre, et qu'on trouve d'autres qui sont entrés dans ce havre, c'est ça qui crée la vraie amitié spirituelle, la vraie communion fraternelle. Tout le monde connaît cette phrase, je vais vous la lire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qui a dit cette phrase? Qui a inventé cette idée? Qui l'a fait vraiment? Eh bien, c'est Jésus. Et Jésus seul. Il a dit, il a fait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et comme on disait, dans le monde, les amitiés existent. On célèbre toute amitié. C'est une belle chose, l'amitié entre deux personnes, entre un groupe de personnes. Mais l'aspect unique de la communion fraternelle chrétienne, des amitiés chrétiennes, c'est qu'au centre, il y a Jésus-Christ. Et dans la mesure que j'ai compris l'amour et le pardon de Dieu pour moi, je peux aimer et pardonner les autres. Et c'est ça la force des havres que nous pouvons vivre ici, en tant qu'Église. Et puis, pour terminer, l'autre aspect unique des amitiés chrétiennes, c'est que, finalement, ce n'est pas provisoire. Nous avons dit que ici-bas, la communion, les amitiés sont provisoires. C'est-à-dire, Dieu nous appelle parfois à des séparations, y compris celle de la mort un jour. Mais les amitiés chrétiennes, toutes ces gens que Paul a vus, avec qui il avait eu communion, avec qui il a pu encourager et qui l'ont pu encourager, eh bien, il va les revoir. La grande tristesse à la fin du chapitre 20, c'est que tout le monde était affligé, surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Donc, dans un sens, il ne verrait plus son visage. Dans un autre sens, ils allaient le revoir au ciel dans la présence de Dieu. Il n'y a que les amis chrétiens qui peuvent se dire au revoir et pas adieu. Donc, nous faisons le chemin ensemble, nous voyageons ensemble et nous savons que si la vie nous amène à nous séparer, eh bien, nous allons nous revoir. Les séparations sont provisoires pour arriver un jour dans l'éternité. Pourquoi? Parce que la mort, c'est la mort qui est la séparation ultime. C'est ça qui met fin souvent à nos êtres chers, nos relations chères, nos amitiés chères. La mort nous frappe tous, et puis l'âge et le vieillissement qui font partie de la mort, c'est ça qui embête ce désir au fond de chacun de nous de partager avec d'autres, d'avoir des amis qui durent à jamais. Et de pouvoir se reposer avec eux, de faire un festin, un banquet qui dure pas juste le temps des congés de l'année, mais qui dure à toujours. Et puis non, la vie reprend, il faut se... Mais non, Jésus, en venant, par ce qu'il a fait à la croix, c'est lui qui a mis fin à ces séparations. Lui, il s'est jeté dans cette tempête de la mort, et lui, il a calmé la mort, il a dit à la mort, « Silence, tais-toi !» Et c'est ce qui vous offre encore ce matin. Alors sachez que tout l'effort que vous investissez dans les amitiés chrétiennes, dans la communion fraternelle, eh bien, cet effort C'est éternel. Vos amitiés chrétiennes ici-bas n'auraient pas de fin. Et donc, ça vaut tout effort, tout sacrifice, le temps qu'il faut, l'effort qu'il faut pour s'entendre. Et c'est ça la beauté de l'Église, et nous voulons le vivre. Nous l'avons vécu ce matin avec ces témoignages, en voulant entourer nos frères et sœurs baptisés qui s'embarquent dans un voyage. Mais j'espère que vous avez vu par leur témoignage et par le témoignage de l'Église tout à l'heure, le repas fraternel, que nous voulons créer constamment dans notre Église, havre de joie et de paix pour s'encourager. Et puis pour Karine qui nous quitte en quelque sorte, qui quitte ce havre de la vie ici à Toulouse, un peu plus simple, pour se lancer dans en Haïti, eh bien, nous savons qu'elle sera entourée là-bas aussi par les amitiés fraternelles et que nous pouvons l'entourer par nos prières et que le Seigneur l'entourera de toute manière. Voilà ce qui nous réjouit et voilà le message de la Bible. Merci. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions surtout de ce que tu nous as envoyé Jésus-Christ. Il a quitté le confort, le havre du ciel pour venir ici-bas pour faire face à la mort et aux conséquences de nos péchés. C'est lui qui les a pris sur lui-même à la croix. Seigneur, à la croix, il était en pleine tempête de ta colère, de ton jugement, de ta justice. Seigneur, pour nous offrir la paix, pour nous offrir un cadre, une sécurité, un havre. Et nous voulons encore ce matin être sûrs que chacun ici a pu y entrer. Seigneur, nous te prions de lui montrer le chemin. Pour ceux qui se trouvent en dehors de cette protection, de cet entourage que tu veux leur offrir. Merci pour ce culte, merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous te prions d'encore accompagner chacun ici qui est en voyage. Nous te prions de nous faire avancer, nous aider à aller plus loin avec toi. C'est ce que je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.